Mais j'ai constaté quelquefois avec amusement la stupeur d'interlocuteur, découvrant que le traducteur de Heidegger et l'introducteur de la philosophie irano-islamique étaient le même, se demandant, mais comment est-il passé de l'un à l'autre? Cet étonnement provient d'un cloisonnement, d'un étiquetage de nos disciplines. Il y a les germanistes, il y a les orientalistes. Parmi les orientalistes, il y a les islamisants, il y a les iranologues. Comment passe-t-on du germanisme à l'iranologie? Si ceux qui s'en étonnent avaient une petite idée de ce que c'est que le philosophe et la quête du philosophe, et que les incidents linguistiques sont pour un philosophe des incidents de parcours, des topographies d'importance secondaire, peut-être serait-il moins étonné. Ce que je voudrais arriver à faire comprendre, je ne puis le faire en ces quelques minutes, il faudrait que j'écrive ma vie un jour là-dessus, c'est que ce que j'ai cherché chez Heidegger, ce que je trouvais chez Heidegger, c'est cela même que je cherchais, que j'ai trouvé dans la métaphysique de irano-islamique, chez des personnages dont je rappellerai tout à l'heure deux ou trois grands noms, mais alors un niveau complètement différent, transposé sur un registre qui fait que finalement, ce n'est pas un hasard si ma destinée m'a, après la guerre, tout de suite après la guerre, missionné en Iran, où, en somme, depuis 30 ans, je n'ai cessé d'avoir des contacts et d'approfondir ce que fut la culture spirituelle, la mission spirituelle de ce pays. Mais il m'est très agréable, et il est nécessaire, que je précise quelque peu, justement, pour faire comprendre ce que fut mon travail et ma quête de philosophe, ce que j'ai dû et conservé de Heidegger tout au long de ma carrière de chercheur. Et je dirais qu'avant tout, il y a l'idée d'herméneutique qui apparaît dès les premières pages de Sein und Zeit. Ce mot, quand on l'employait il y a 30 ans, semblait étrange, à peine barbare, car, enfin tout de même c'est un terme qui est courant en grec, nous avons à Aristote, le péri-herméneias, qu'on a traduit en latin, de interpretatione, mais enfin mieux que ça. L'herméneutique, c'est tout simplement ce qui s'appelle das Verstehen, le comprendre, et la technique de comprendre, au sens donc où l'employé Diltheil. Je crois qu'il y a un lien direct entre cette notion du Verstehen, la psychologie compréhensive de Diltheil, et l'analytique, l'idée de l'herméneutique chez Heidegger. Chez Diltheil même, elle dérive de Schleiermacher, auquel il avait consacré un énorme travail, le grand théologien du romantisme allemand. Et je crois que là, nous retrouvons les origines théologiques de l'herméneutique. Elle se développe spontanément et amplement. Elle est l'apanage des religions du livre, les trois communautés, judaïsme, christianisme, islam, et en somme. J'ai l'impression que cette herméneutique que je découvrais avec enchantement chez Heidegger et ensuite à travers Diltheil et Schleiermacher, je n'ai fait qu'en poursuivre l'approfondissement à travers les gnoses des religions du livre, celles du judaïsme, de l'islam et du christianisme. Il y a, de ce point de vue, un livre dont on ne parle pas beaucoup dans l'œuvre de Heidegger. C'était sa thèse d'habilitation, le livre sur Dan Scott. Et il y a quelques pages qui ont été pour moi tout à fait éclairante, sur ce qui s'appelait au Moyen-Âge, ce qu'on appelait à l'époque grammatica speculativa, grammaire spéculative. Mais j'en ai fait un profit direct, immédiat. J'avais été appelé à suppléer mon ami Alexandre Coiré à l'école des hautes études aux sciences religieuses l'année 1937-39. Et je pus la mettre en œuvre, ce que Heidegger m'avait enseigné à propos de l'herméneutique de Luther. Qu'est-ce que c'est que la signification passive chez l'auteur? La signification passive. C'est là vraiment le triomphe de l'herméneutique en tant que Verstehen, à savoir que ce que nous comprenons vraiment, c'est ce que nous subissons, ce dont nous pâtissons dans notre être. L'herméneutique ne consiste pas à délibérer sur des concepts, elle est essentiellement le dévoilement de ce qui se passe en nous, lorsque nous démettons telle conception, telle vision, telle projection. Voyez-vous, le phénomène du sens, le sens qui est tellement fondamental dans toute la métaphysique de Heidegger, le sens, c'est ce qui unit le signifiant et le signifié. Nous avons là le ternaire. Ce ternaire est incomplet sans que nous n'avons pas de quatrième terme. Ce quatrième terme, c'est le sujet. Ce sujet, c'est la présence. Le Dasein, mais je traduirai par présence, à savoir cette présence par qui et pour laquelle se dévoile ce sens. Cette présence sans laquelle ce sens ne serait jamais dévoilé. La modalité de cette présence humaine est essentiellement d'être révélée et révélante. Bref, voyez-vous, il s'agit du rapport entre les modi intelligendi et les modi essendi, c'est-à-dire que les modes de comprendre sont essentiellement en fonction des modes d'être. Et ces derniers sont des conditions ontologiques, c'est-à-dire existentielles, non pas existentielles, du comprendre, du tertien, c'est-à-dire de l'herméneutique. Et bien là, si ça me permet de passer à un deuxième point, l'herméneutique, en somme, est la tâche essentielle du phénoménologue. Pensons, n'est-ce pas, au vocabulaire étrange, inouï, devant lequel nous met Heidegger, et qui habite tellement à l'épreuve son premier traducteur. Je ne veux pas jargonner allemand, mais enfin, je pense à des mots comme Erschließen, Erschlossenheit, les actes de révéler, les modalités de la présence humaine, à la fois révélées et révélantes, des termes comme Entdecken, qui sont découvrir, dévoiler, le cacher, le verborgen, ainsi de suite. Or, ce dont j'ai fait l'expérience assez vite, c'est que je retrouvais l'équivalent de ces mots dans l'arabe classique, des grands théosophes visionnaires de l'islam. Le pont n'est pas difficile à trouver. J'évoquais tout à l'heure le livre de Heidegger sur Dan Scott. Nous savons qu'Avicenne est au point de départ de Dan Scott. Denis de Rougemont rappelait dernièrement, avec humour, qu'à l'époque, nous étions déjà des amis de jeunesse, constatait que mon exemplaire de Zeit était rempli dans les marges de gloses en arabe. Eh bien, je dirais que, avant tout, je n'aurais pas eu la clé pour traduire le vocabulaire tellement difficile d'un surah verdi ou d'un hymne arabe si je n'avais pas eu au préalable à faire les exercices et l'acrobatie qu'il m'avait fallu faire pour traduire ce vocabulaire allemand inouï que nous trouvons chez Heidegger. Je pense à des termes comme « zahir », le paquet, l'extérieur, l'apparent, l'exotérique, « baten », l'intérieur, l'exotérique, le caché. Puis toute la famille des mots, des termes qui se groupent autour de ces deux mots, par exemple. Bien, c'était tout le vocabulaire de la phénoménologie qui venait en même temps. Et si je crois que si mes traductions ont eu la portée, la sonorité qu'elles ont eue, c'est parce que je disposais de cet armement. Et c'est avec là, c'est donc l'idée de ce que nous appelons maintenant, qui est devenu courant à l'époque, ce n'était moins, les niveaux herméneutiques. Et que ces niveaux, ces différents niveaux, dépendent des différents modes d'être. C'est ça, en très bref, l'attitude du phénoménologue, et c'est contre quoi, tous les malentendus contre lesquels j'ai toujours essayé de mettre en garde mes étudiants, que ce soit ici à Paris ou que ce soit à Téhéran. Par exemple, nous nous sommes souvent demandé comment traduire phénoménologie, exactement, en arabe d'une part, en persan de l'autre. Et je voyais mes garçons se donner un mal fou pour traduire ça à coup de dictionnaire. La voie n'était pas la bonne. Nous trouvons par exemple des expressions courantes dans le soufisme, dans la théosophie mystique, telles comme Kafshul Marjoub. Parce que le traité de soufisme porte ce titre. Ça veut dire littéralement découverte de ce qui est voilé. Donc le voile, c'est nous-mêmes. Découvrir ce qui est voilé, c'est qui, la terminologie heideggerienne s'appelle Das Entdecken des Verborgenen. C'est absolument littéral. Donc, je parlais tout à l'heure de signification passive, bien, toute la théorie des noms divins, comme hypostase, le grand théosophe visionnaire que fut Ibn Arabi, vous laisserez échapper dans la traduction l'essentiel de ce qu'il veut dire si vous n'avez pas tout présent à la pensée ce que c'est que cette signification passive. Donc, très brièvement dit, voilà en somme, quelle fut mon idée directrice dans mon œuvre de chercheur en sciences philosophiques, en sciences religieuses. Je comprends aujourd'hui pas mal de volumes. Je n'ai pas voulu être historien, purement et simplement, au sens courant du mot, l'homme qui fait un bilan du passé, qui ne s'en sent pas responsable. J'ai voulu, et je suis toujours resté, le phénoménologue que je devins dans ma jeunesse. C'est peut-être cela d'ailleurs qui a dérouté certains de mes collègues orientalistes. Je crois que les philosophes, en revanche, ont bien compris ce que je cherchais. La difficulté, c'est d'établir le lien, puisque les personnages et les termes techniques qui nous sont fournis en persan et en arabe, hélas, ne font pas partie du programme commun. J'ai toujours eu présente au cours de ces recherches, présente à l'esprit cette incomparable analyse de Heidegger, montrant les racines ontologiques de la science historique, mettant en évidence qu'il y a une historicité, je disais à l'époque historialité, je crois que le terme peut être conservé, plus primitive que l'histoire universelle, l'histoire des événements extérieurs, la Weltgeschichte, hein, bref, l'histoire au sens ordinaire et courant du mot. Peut-être à ce moment-là, ai-je pris alors une direction qui n'était plus qu'une direction tout à fait heideggerienne. C'est-à-dire que découvrant cette historialité, elle m'est apparue, non pas, comme nous appelons, à nous insérer dans l'histoire et dans l'historicité, mais comme nous permettant de nous arracher à l'historicité et de l'histoire. Car s'il y a un centre de l'histoire, il n'est pas dans les événements, il n'est pas dans l'historicité, il n'est pas dans l'histoire, il est dans cette historialité, dans ses racines existentielles de l'histoire et de l'historique. Je m'amuse à forger un autre mot, le terme de héros-histoire. Je crois que toute histoire sacrale est un arrachement à cette histoire, au sens courant du mot, au sens secondaire, et non pas une insertion dans cette histoire. Je crois que c'est une confusion que meilleurs esprits de bonne volonté commettent couramment de nos jours. Vous voyez, l'analyse du Dasein, du Dagewesen, mon Dieu, devant quelle difficulté inouïe nous avons été mis, être au présent, ce qui fut là au présent, et le Gewesen, ce participe présent fait sur un participe passé, le devenant passé, le Gewesenheit, le devenu passé, ainsi de suite. Tout ce qui concerne chez Heidegger, cette admirable analyse sans précédent, die Zeitigung der Zeit, la temporalité, la temporalisation de la temporalité. L'idée que l'avenir qui se constitue, que c'est l'avenir qui se constitue en présent, au présent, dans le terme aussi inouï, das Gegenwärtige Zukünftige, eh bien, voyez-vous, peut-être serais-je passé à pieds joints sur des chapitres extraordinaires chez certains de nos mystiques iraniens, nos théosophes mystiques iraniens. Je pense à Semnadi, à Qazi Saïd Khoumi. La différenciation qu'ils établissent entre ce qu'ils appellent le Zaman Afari, le temps des horizons, c'est-à-dire le temps du macrocosme, et le Zaman Anfusi, le temps intérieur, le temps des âmes. Peut-être serais-je passé à côté de cela comme on passe à côté d'une merveille en faisant de la bicyclette la nuit, si je n'avais pas été fixé d'avance sur cette cible par ce que m'avait appris l'analytique de Heidegger. Car je peux le dire, soyez sûr que je n'aurais pas compris ce Ravardi, comme je l'ai compris, si je n'avais pas dit cette formation, cette information phénoménologique préalable. Voyez-vous, nous en parlions il y a quelques mois. Comment fut-il possible à ce jeune homme au XIIe siècle de concevoir le projet de ressusciter la philosophie des sages de l'ancienne Perse, des sages zoroastriens en Iran islamique? Pour l'historien pur et simple, c'est une vue de l'esprit, c'est quelque chose. Même si une abstraction est vouée à l'échec. Pour le phénoménologue, pas du tout. Sohrawardi est vraiment le héros exemplaire. Il n'a pas délibéré sur des concepts passés. Ce passé, il l'a pris en charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a senti qu'il en était lui-même l'avenir, et par là même, la mise au présent. Un présent qui dure maintenant depuis des siècles. Et... voyez, c'est peut-être aussi de cette manière, je crois, que j'ai présenté et compris tout l'ensemble de la culture spirituelle de l'Iran. Et c'est pourquoi, peut-être, mes amis iraniens se retrouvent eux-mêmes, j'en ai souvent le témoignage qui me bouleverse dans mes livres. Eh bien, vous voyez, en évoquant cela, pourquoi je disais, pour me dire tout à l'heure, que je voulais rendre témoignage à ce que j'ai dû et conservé de Heidegger tout au long de ma carrière de chercheur. Mais là même, je voudrais prévenir et prévoir un grave malentendu. Il ne s'agit pas, j'ai lutté contre ce malentendu que j'ai vu se répéter, oh, peut-être souvent de bonne foi, mais quelquefois aussi avec des intentions douteuses. C'est qu'il ne s'agit pas de transposer la Weltanschauung, la conception du monde de Heidegger. Il ne s'agit pas de confondre, de faire un syncrétisme d'une et l'autre, et vraiment, je crois, de n'avoir jamais fait. Il s'agit, je pourrais appeler, l'équipement du laboratoire du phénoménologue. Mais parce que je connaissais à la fois l'analytique de Heidegger, ce qui l'entoure, et la métaphysique islamique, on a dit que j'avais confondu et mélangé l'un et l'autre. Alors que j'ai écrit des pages et des pages pour montrer la différence. Bon, ça ne sert à rien, on ne les lit pas. Et on continue de dire, malgré que vous ayez écrit des pages et des pages pour montrer la différence, on dit que vous avez confondu l'un et l'autre. Ouais. Dans vos livres, principalement, nous avons un autre très grand philosophe en Iran, 16e, 17e siècle, Moulin Sadra Shirazi, à qui nous devons une véritable révolution métaphysique. C'est lui qui le premier a vraiment ébranlé la vénérable métaphysique de l'essence et lui a substitué une métaphysique de l'être, de l'exister, donnant à l'acte d'exister primauté sur l'essence, puisque c'est cet acte qui détermine ce qu'est une essence. Eh bien, il m'est arrivé, justement, de me trouver chez de mes étudiants iraniens qui avaient peu ou prou connaissance de Heidegger, dit « Ah, voilà, nous avons la métaphysique existentielle, c'est nous qui l'avons trouvé les premiers. » Et j'ai dû, avec beaucoup de précautions et de revenant sans cesse à la charge, les prémunir contre cette erreur et leur dire « Mais attention, il y a peut-être une consonance dans les termes, c'est pas un hasard, du vocabulaire commun, latin et arabe, que nous avions au XIIe siècle, mais en tout cas, il n'y a chez Moulin Sadra aucune trace de l'existentialisme, rien qui ait à voir avec ce qui s'est appelé ici en France existentialisme. Je m'en suis expliqué longuement, d'ailleurs, dans ce même livre, qui est une traduction, édition, commentaire du livre des pénétrations métaphysiques de Moulin Sadra. J'ai rappelé ce qu'était le vocabulaire de l'être, en grec et en latin, en arabe, en persan, en français et en allemand. Enfin, les confusions sont tout de même très faciles à éviter. Mais il y a une différence fondamentale. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Vous voyez, l'analytique heideggerienne du Dasein est en fait, on s'en est avisé très tôt, elle est guidée tacitement, volens nolens, par son insu qu'elle le veuille ou non, par une certaine Weltanschauung, une certaine conception du monde. Et je rappelle simplement, parce que ces pages, je les ai traduites très tôt, qu'elles figurent dans le petit livre paru chez Gallimard en 1938, toute l'ambiguïté de la finitude humaine caractérisée comme Sein zum Tode, l'être pour la mort. Je dirais très brièvement que l'analytique d'Amulda Sandra, qui culmine justement dans la notion de présence, c'est-à-dire l'existence humaine, elle trouve là son climax. De même aussi, le grand théosophe visionnaire, Ibn Arabi, c'est que la présence qu'il découvre n'est pas celle d'un être pour la mort, mais, je dirais alors en allemand, en traduisant directement de l'arabe, « Sein zum Jenseits des Todes », c'est un être pour au-delà de la mort. L'analytique du Dasein nous amène à serrer d'aussi près que possible cette notion de présence. Voyez-vous, il y a des termes courants chez nos philosophes, surtout chez les Jérakiyoun. On parle par exemple d'une connaissance formelle, elle met souris, qui est représentative, par l'intermédiaire d'une species. Et puis, il y a ce qu'on appelle la connaissance présentielle, elle met usuri, qui est présence immédiate, qui n'est pas due à l'intermédiaire d'une forme, d'une species. Mais cette présence, cette connaissance présentielle, c'est ce qu'il désigne également comme connaissance orientale, Eshrachi. Car cette connaissance est à la fois le lever de l'orient de l'âme sur les choses et elle est le lever de l'orient de l'être sur l'âme. Il ne faut jamais oublier de faire intervenir pour le mot Eshrach cette notion de l'orient. C'est une lumière qui se lève, une lumière qui est antérieure à la toute chose révélée, puisque c'est elle qui les révèle. C'est à la présence. Eh bien, vous voyez, toute la différence est peut-être là. Sans aucun doute, elle est là. Dans le « da » du « dasein ». Car la présence, ce que signifie cette présence de l'homme à lui-même, c'est notre théosophe islamique, c'est une présence, c'est sa présence à tous les mondes et intermondes. C'est quelque chose, d'ailleurs, que nous trouvons aussi bien chez le grand néoplatonicien Proclus, que dans la gnose juive et la gnose islamique. C'est une présence qui est constituée est constitutive d'un avenir qui lui incombe alors de constituer au présent, en présent. Ce n'est plus seulement, je reprends l'expression de tout à l'heure, ce n'est plus seulement être libre pour la mort, cet adage pathétique de l'analytique heideggerienne, mais être libre pour l'au-delà de la mort. Et si nous gardons les mots, les Entschlossenheit, la décision résolue, vous voyez donc comment dans chaque cas, elle se projette sur des horizons d'un niveau différent. Cette liberté pour l'au-delà de la mort, malheureusement, je crois que l'agnosticisme qui règne dans l'Occident de nos jours, depuis quelques siècles, cette liberté, l'agnosticisme nous en prive. Et c'est bien là, je crois, le sens métaphysique du mot Occident. C'est bien le sens que Soavardi donne au mot Occident dans son pathétique récit de l'exil occidental. Je crois, je dirais peut-être un jour comment le récit de l'exil occidental, justement, m'a fait prendre une direction qui n'était plus celle de l'analytique heideggerienne. Vous voyez, nous nous heurtons à tous les murs, à des murs que nous avons élevés nous-mêmes. Et le da de notre Dasein n'est plus qu'un îlot en perdition. Je crois que justement, ce but d'exil occidental. Eh bien, vous voyez, dans ce très bref résumé, dans cette très brève esquisse, je crois, alors, plus tard comprendre à la fois comment le traducteur de Heidegger était devenu aussi l'herméneute de la res religiosa iranienne, et en même temps aussi tout au long de ce parcours, j'ai emporté avec moi du bagage de l'armement que m'avait confié Heidegger, de tout ce que je lui ai dû. Et je ferai comprendre aussi comment mes années d'Orient m'ont éloigné de l'Europe, mais à comprendre aussi combien, après toutes ces expériences, il m'était difficile de renouer avec Heidegger après tant d'années.
Et justement, Henri Corbin, vous avez là parlé de Heidegger que vous avez traduit en 1938. Vous avez souligné comment son amour pour l'Occident pouvait bien prendre un sens spécial, un sens finalement non religieux, comparé, mesuré au sens oriental que vous avez découvert par l'herméneutique des textes iranien. Mais est-ce qu'il faut comprendre que après 1938, la suite des œuvres de Heidegger témoigne en quelque sorte d'un ralentissement ou d'une stagnation plutôt de sa pensée. Et faut-il comprendre donc que la seconde partie de l'œuvre heideggerienne, après la grande période de Sein und Zeit et de Qu'est-ce que la métaphysique, n'a rien changé, si vous voulez, à cette fermeture que vous dénoté dans la première partie de son œuvre.
Ah, je voudrais laisser le soin de répondre à votre question très pertinente, très grave, à ceux qui, au cours des années, ont gardé avec la pensée de Heidegger un contact que moi-même j'ai perdu, étant donné qu'en Orient, mon Dieu, les livres de Heidegger n'arrivaient pas rapidement ni très facilement. Ce que je puis vous rappeler, et ce qui reste pour moi une énigme, c'est que la seconde partie de Sein und Zeit, sans laquelle la première vraiment reste boiteuse, incomplète, mais nous n'avons plus le courage de nous battre pour la traduire, cette seconde partie, vraiment, je peux dire qu'elle a existé, je l'ai vue, j'en ai vu le manuscrit. Qu'est-elle devenue depuis? Je ne peux pas répondre à cette question qui restera peut-être une énigme de l'histoire de la philosophie, à moins que mes plus jeunes collègues qui ont gardé le contact avec Heidegger jusqu'à ces derniers jours, mais sur ce point, une réponse dont moi-même je ne dispose pas.
Henri Corbin, je voudrais vous poser une dernière question. C'est que vous avez dit que dans la métaphysique de Heidegger, on se heurtait à une fermeture, à une fermeture dans l'Occident, et vous avez opposé ça à la dimension orientale et éclairante, éclairée et religieuse que vous avez découverte en Orient. Mais cependant, si chez Heidegger il est bien vrai qu'il n'y a pas de place pour une notion de Dieu, puisque le Dieu est pour lui assimilable à un concept métaphysique, celui de l'étant suprême, il y a quand même chez Heidegger une place pour la dimension du sacré et pour la différence qu'il appelle différence ontologique entre l'être et l'étant, c'est-à-dire au fond pour la différence entre deux mondes, un monde éternel qui est en haut et un monde provisoire qui est en bas. Alors, est-ce que là, il n'y aurait pas tout de même un moyen de faire se rejoindre la pensée de Heidegger avec une pensée religieuse ?
La question que vous posez, pour y répondre intégralement, demanderait d'abord à ce qu'on rechercha dans la genèse de Heidegger son lien avec la théologie. Je me rappelle avoir disposé d'un manuscrit, je ne l'avais que pas dans mes archives, d'une conférence, je ne sais pas si elle a été publiée, qui s'appelait Philosophie et théologie. Heidegger avait commencé par le professeur à l'université de Marbourg. Ce qui n'en fut par la suite, c'est, hein, vraiment, là, je ne peux pas me prononcer. Mais j'ai l'impression que vous rappelez très justement la différence entre l'être et les temps. Je vous dis en passant, c'est un problème qui a été merveilleusement analysé par certains de nos philosophes d'Hispan au XVIIe siècle, dénonçant la confusion commise par pas mal de soufis entre l'unité de l'être et les temps, et l'unité de l'étant. Beaucoup d'orientalistes s'y sont laissés prendre. On parlait de monisme existentiel, ce qui est une contradiction in adjecto, qui n'a jamais été pensée par nos philosophes et théosophes. Mais j'aurais l'impression alors que vous identifieriez, mettriez en parallèle, ce contraste entre l'être qui est la source des étangs, et l'être qui constitue l'étang comme être. Il est donc, il a rempli le rôle de l'énade chez Proclus, chez les néoplatoniciens, les lénades qui constituent les êtres en tant qu'êtres un, sans lesquels un être ne serait jamais un être. Mais si vous voulez y retrouver un contraste entre un monde supérieur, le monde de l'intelligible, je me demande si vous n'attireriez pas par là Heidegger du côté du néoplatonisme. Je crois que c'est dans cette direction que vous allez alors chercher, alors reprendre des choses, tel principe. Je ne dirais pas c'est Platon, non. Mais c'est les néoplatoniciens tardifs, des géants comme Proclus et Damasus.
Je crois qu'il faut en effet chercher, parce qu'il y a aussi cette thématique de la parole qui a été inaugurée au fond à l'époque moderne par Heidegger, mais qui s'accorde si bien avec la tradition, par exemple, biblique de la parole de Dieu. Et là, on est bien dans une dimension du sacré, et que ce sacré prenne le nom de Dieu ou qu'il prenne seulement celui de l'être, ce qui est important au fond, c'est plutôt la différence ontologique en elle-même entre l'être et les temps, de même que pour les religions, il y a une différence entre un monde d'en haut et un monde d'en bas. Et si on prend en compte seulement cette différence pour elle-même, quelles que soient les figures qu'elle se donne, eh bien peut-être là trouve-t-on alors une unité d'inspiration entre le heideggerianisme et ce qui reste du monde des religions.
Ça revient à nous interroger sur le logos de l'ontologie, le logos de la théologie, évidemment. Nous retrouvons là le problème de la parole, du verbe, des théologies et des religions du livre. Heidegger vous aurait-il suivi sur cette question? Aurait-il accepté qu'on la posât? Là, il a emporté le secret avec lui dans sa tombe. Je dirai en arabe, Rahmatullah alayhi, que Dieu l'ait sur ta miséricorde.